Dans la paracha précédente, celle de Roukat, nous sommes maintenant à Balak, on a appris que Sihon, le roi des Amorites, n'a pas permis à Israël de traverser son territoire. Il a engagé une bataille qu'il a perdue. Et les Hébreux se sont établis dans son pays jusqu'à la frontière des Ammonites. Les Ammonites sont des Sémites descendants de Lot, neveu d'Abraham. Puis, les Hébreux se sont engagés dans la région montagneuse du Bashan, c'est-à-dire une région qui est plus ou moins qui est à peu près au niveau du Golan. Vous voyez, donc c'est une montagne, c'est un plateau. Et là, ils ont dû lutter contre le roi du Bashan, qui lui aussi n'a pas voulu les laisser passer, Og, qui s'est avancé vers eux. Ce roi était particulièrement puissant. Il régnait pratiquement sur toute la Jordanie jusqu'au Hermon, jusqu'au mont Hermon. Et les Hébreux n'avaient pas du tout l'intention de l'attaquer. Ils voulaient juste passer. Mais il n'a pas voulu. Il a attendu la fin de la guerre précédente, espérant que les Hébreux soient vaincus, affaiblis par le combat, de manière à les vaincre plus facilement. Et Moshe craignait Og, parce que d'abord, il avait une force physique démesurée, c'était un des anciens géants dont la stature était redoutable. Et aussi bien Og que Sihon régnaient sur des peuples dont il ne faisait pas partie. Ce n'était pas un roi sorti de tel ou tel peuple, mais c'était des rois qui régnaient sur les Sémites ammonites et sur les Cananéens émorites. Donc les noms nous embrouillent parfois, mais les Ammonites sont les descendants de Lot et les Émorites sont des Cananéens qui avaient passé le Jourdain et conquis des terres dans la Jordanie actuelle, dans le Gilead. Donc, tous deux, aussi bien Og que Sihon, c'étaient les derniers géants subsistants de l'époque du déluge, d'avant le déluge. Une tradition nous indique que Og n'est autre qu'Éliézer de Damas. On le reconnaît, c'est un serviteur d'Abraham. Et à ce propos, on a des informations contradictoires, certaines par le Midrash. Certaines sont négatives et d'autres sont positives. On a là un cas d'avis contradictoires venant du Midrash. Aussi, les rabbins nous enseignent qu'il ne faut pas poser de questions sur le Midrash. Parce que le Midrash résonne différemment. Il veut transmettre un message et il le fait en se concentrant sur le message à transmettre, souvent sans trop s'occuper de questions accessoires qu'il soulève au passage. Et c'est pour ça, nous répondent des rabbins, il faut être prudent avec les textes du Midrash. Ça n'a bien entendu pas la même solidité que la Torah elle-même ou le Talmud. Donc, on a sur Og des informations contradictoires et Moshe, dans ces cas-là, pouvait le craindre parce que Og était le serviteur d'Abraham, il avait rendu d'énormes services à Abraham et il pouvait en tout cas avoir acquis du mérite à cette occasion. Il l'avait incité à partir en guerre pour libérer son neveu Lot, par exemple. De plus, autre raison, Og était particulièrement âgé à cette époque-là, et Moshe pouvait craindre que cet âge respectable impliquait des mérites particuliers. Et puisqu'il avait des mérites particuliers, eh bien, il valait mieux passer sans combat. Mais donc, il a combattu, il a vaincu Og, ces deux rois-là ont été vaincus, et maintenant, nous voyons Balak arriver. Alors, qui est-ce? C'est un roi. C'est un roi de Moab. Et alors que, imaginons la situation, les Hébreux sont sortis du Jourdain. Ils ont fini par arriver juste pratiquement en face du Jourdain. Il leur faut juste traverser les quelques territoires et entrer. Mais il y a des voisins particulièrement craintifs. Il y a Moab qui les voit arriver et qui se dit: oh là, c'est un peuple qui a bénéficié d'importants miracles, déjà en Égypte, les plaies, la traversée du désert. 40 ans dans ces conditions et rester toujours un peuple vivant et uni et qui arrive chez lui, cela leur a fait peur. Et dans ces conditions, Balak, qui est un prince du peuple de Midian, eh bien, Balak s'est dit, on va essayer de régler le problème autrement. Puisque tous ceux qui combattent Israël perdent, eh bien, dans ces conditions, nous, on ne va pas faire la guerre avec des armes et des soldats, on va trouver une autre solution. Parce que la géographie politique de la région a profondément changé avec l'arrivée d'un nouveau peuple venant prendre possession de la terre de Canaan qui lui avait été donnée par Dieu. Et Balak a compris qu'il n'avait aucune chance face aux enfants d'Israël. Aussi a-t-il décidé de prendre des mesures et comment amoindrir la force d'Israël? Eh bien, tout simplement, il fallait trouver une solution. Or, n'oublions pas, Balak était un Midianite. Ça a du sens. N'oublions pas que Moshe avait été se réfugier dans le pays de Midian après avoir fui l'Égypte. Et donc, à Midian, il était de notoriété publique que la force des enfants d'Israël, eh bien, venait de leur bouche, de leur prière, de leur étude. Comme nous dit la Torah, Hakol kol Yaakov. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains sont les mains de Ésaü. C'est-à-dire que la force des enfants d'Israël vient de l'étude de la Torah et de la prière. On peut avoir toutes les armes du monde, certes, il les faut, mais sans à côté l'étude des yeshivas, étude de la Torah, étude de la prière, eh bien, on se trouve particulièrement affaibli, surtout si une partie du peuple non seulement n'étudie pas et ne prie pas, mais en plus cherche à empêcher les Hébreux qui veulent étudier. Donc, c'est une situation qui traverse le temps et qu'on retrouve encore aujourd'hui et dans les événements politiques pour ceux qui suivent. Mais en tout cas, le roi de Moab avait trouvé cette solution pour battre Israël. Il n'est pas nécessaire d'avoir des armes et des armées puissantes. Il faut trouver le moyen de combattre leur point fort, qui est leur bouche en définitive, leur parole. Donc, parole contre parole. Il existe un prophète non-juif à cette époque qui s'appelle Bilaam. Eh bien, puisque c'est par la parole qu'Israël est fort, eh bien, on va trouver quelqu'un qui est aussi fort dans sa parole. Et il pourra maudire Israël, Hasvé Shalom, il pourra à cette occasion faire en sorte que par sorcellerie, hein, en fait c'est de la sorcellerie araméenne, Bilaam, ennemi des Juifs, puisque n'oublions pas qu'il était le fils de Béor, c'était le petit-fils de Laban, donc on se retrouve avec une haine ancestrale contre les descendants d'Abraham. Et donc voilà le cadre général. En fait, Bilram, qui a cherché à maudire, tant et plus, hein, il a demandé au roi Balak de construire cet autel, etc., etc. Donc il a fait vraiment tout ça par un grand moyen. Mais l'ironie de la situation, c'est que Bilram voulait maudire Israël par sa parole. Et en fait, on a, quand il est arrivé dans le royaume du roi Balak, il était sur une ânesse. Il se trouve que l'ânesse a s'est approchée d'un mur, elle lui a blessé la jambe, en fait, elle l'a à plusieurs reprises cogné contre un mur, il avait mal, et il s'est emporté contre son ânesse, au point de lui dire: Ah, si j'avais une épée dans ma main, je t'aurais tué sur place. Regardez l'ironie de la situation. Celui qui prétend détruire le peuple d'Israël par sa parole ne peut rien faire contre son ânesse parce qu'il n'a pas d'épée. En tout cas, tout ce qu'il a tenté de faire, sacrifice, malédiction, etc., rien n'a pu marcher. Et il a dirigé dans ces conditions, il a développé sa solution, il a dirigé sa pensée vers le désert pour irriter Hachem. Voyez-vous, il a voulu, c'est une stratégie habile, rappeler à Hachem que les Hébreux avaient fauté parce que, en fait, quand on nous dit que Bilham éleva ses yeux, etc., donc vers le désert, c'était ce qu'on nous explique, Onkelos, qui est le traducteur de la Torah, traducteur en araméen, qui était un traducteur inspiré par Hachem, donc sa traduction a une grande valeur explicative quand on ne comprend pas quelque chose. Avec Onkelos, on voit ce que le verset veut dire exactement. Et justement, la traduction araméenne d'Onkelos, que cite d'ailleurs Rashi dans ses notes, précise que Bilham a dirigé ses yeux vers le veau d'or que les enfants d'Israël avaient fait dans le désert. Et donc, évidemment, c'était une faute, et le but était bien d'attiser la colère de Hachem contre son peuple. Mais il y a une chose que Bilham ignorait, c'est que la tradition juive affirme: les solutions sont créées avant les problèmes. Ainsi, un maître du Talmud, Resh Lakish, a dit: Le Saint béni soit-il ne frappe pas les enfants d'Israël, à moins de leur avoir créé préalablement un remède. Et là, Bilham, aux ordres de Balak, faisant une allusion au veau d'or, il n'a rien fait d'efficace parce que cette allusion au veau d'or était devenue inopérante par avance. Le remède avait été apporté par avance. En fait, on a eu la paracha précédente, le sujet de la vache rousse. Et les sages expliquent que ce qui concerne la vache rousse, donc c'était une paracha avant, vient en expiation de la faute du veau d'or dans le désert. Ainsi, voyons la situation. Dans le désert, les Hébreux ont fauté. Ensuite, dans la dernière paracha, on nous explique tout le roc de la vache rousse. C'est difficile à comprendre, mais pour expliquer rapidement, les vaches qui ont un poil absolument uniformément roux, sans un poil blanc, sans une blessure, sans avoir porté un joug, eh bien cette vache-là est en mesure d'apporter la purification aux enfants d'Israël après certaines catégories d'impuretés. Bon, cette vache rousse était sacrifiée, elle était brûlée, ses cendres étaient mélangées à de l'eau vive et cela était le Cohen aspergeait les personnes impures qui devenaient pures. Et inversement, le Cohen, lui, devenait impur et il devait se purifier. Bon. Mais donc, vous voyons la force de cette vache rousse. Ce roc est tout à fait considérable puisqu'il indique une purification. Or, le sujet de la vache rousse a été expliqué avant l'étape de la paracha actuelle dans les plaines de Moab. C'est-à-dire que Bilham, parlant contre Israël, était impuissant. Le remède avait été apporté déjà. On a un autre exemple de cette nature, c'est celui du mois Ab, de Ab, le 9 Ab, le 9 de Tisha B'Av, le 9 du mois d'Ab. Il y a eu, à travers l'histoire, une quantité d'événements tragiques dans l'histoire du peuple juif. Mais le Midrash fournit un rayon d'espoir, car il nous affirme que le 9 Ab, jour de la destruction du temple de Jérusalem, à deux reprises d'ailleurs, eh bien, c'est ce jour du 9 Ab qu'est né le Mashiach. On a du mal à comprendre ça comme ça, mais ce que ça indique, c'est que il y a, en fait, on se retrouve avec le jour du 9 Ab qui a une double connotation, qui parle de malheur, mais qui parle d'espoir en même temps. Voyez-vous, c'est pas comme une dialectique dans la philosophie, on voit, ou dans la politique, on parle de dialectique, c'est-à-dire qu'on passe d'un sujet à un autre, on avance d'un sujet à son contraire. Là, non, les deux contraires sont associés, en quelque sorte. On dépasse les contraires. Et là, le jour en question a les deux significations. D'ailleurs, dans le mot ab, on sait que les mots ont la propriété de la langue, la propriété de la langue sainte fait que les mots expriment souvent beaucoup plus que le sens convenu. On l'a examiné, on l'a expliqué à maintes reprises au cours de cette série de cours. Mais ici, nous voyons quoi? Ab. Ab, c'est Aleph et Bet, deux lettres. Aleph et Bet. Eh bien, Aleph et Bet, ça forme le mot père ou aussi dans le sens de principe. Et donc, on voit que du mois de Ab, dans tout son sens triste, en quelque sorte, émerge le principe de l'émergence du Messie. Et donc, on voit qu'il y a là quelque chose de très, très instructif, qui mérite de revenir d'ailleurs. Voilà, je crois qu'on n'a pas trop de temps maintenant, mais... Pour terminer, tout ce sujet nous fait réfléchir au fond, de formes d'anéantissement que souhaitent mettre en œuvre les ennemis du peuple juif. Il y a la méthode de Bilham, qui est une méthode de destruction spirituelle. Et il y a la méthode de Rogue, qui est une méthode de destruction physique. Et on a ce mécanisme qui fonctionne dans l'histoire, double mécanisme, méthode violente prônée par Amman jusqu'à l'Allemagne nazie, ou méthode douce qui est celle de la mise en œuvre depuis l'époque hellénistique, à l'époque d'Alexandrie en Égypte, d'Alexandrie grec en fait, jusqu'à Paris avec la Révolution française, une méthode douce qui est l'assimilation. Et dans tous les pays où il est permis une assimilation complète, qu'elle soit voulue ou subie, eh bien cela se met en route, cette solution-là. Les deux méthodes coexistent. Eh bien, on voit que par instant, comme en France actuellement, on a les deux méthodes qui coexistent, c'est-à-dire une tendance à l'assimilation considérable, mais en même temps, eh bien, la haine que l'on a dans les rues, et malheureusement, depuis l'an 2000, cela se confirme. Cet enseignement sur les deux formes d'anéantissement, il trouve un écho dans deux faits. Celle de Purim et celle de Hanouka. Purim correspond à la libération de la méthode de destruction physique. Et au contraire, Hanouka correspond à la libération dans un contexte d'assimilation par les Grecs. Deux méthodes utilisées séparément ou en même temps d'ailleurs selon les pays et selon les époques. Eh bien, la solution, bien sûr, elle est claire. C'est la solution de Hakol Kol Yaakov. Comme on l'a dit, la voix de Jacob, la prière, l'étude. Et que voit-on dans la paracha, dans la paracha précédente? On voit, nous avons crié vers Hachem et il a entendu notre voix. Et il a envoyé un ange, et il nous a fait sortir d'Égypte. Et voici, nous sommes en la ville de Kadesh, à ta frontière. Donc, on voit le peuple qui s'apprête à rentrer en terre d'Israël. Mais il précise bien, Vayishmar, Kolenu, Hachem a entendu notre voix. Et rappelle, Moshe rappelle au peuple que il s'adresse d'ailleurs à Édom en disant ça, Moshe, c'est-à-dire à des descendants de Ésaü. Il explique que Hachem a entendu la voix des enfants d'Israël. Et comme l'enseigne le Midrash, lorsqu'on élève la voix en priant et en étudiant la Torah, Hachem entend notre voix et nous délivre des malheurs. Et ici, on s'est rendu compte que la voix de Bilham a été tournée, en fait, complètement retournée pour dire le contraire de ce qu'il voulait dire. En fait, on a, si l'on veut dire un petit mot de sode à ce propos, la Kabbalah explique que Bilham, tout en voulant maudire, a en réalité ouvert des canaux de bénédiction qu'il ne contrôlait pas. Il a ouvert ces canaux, révélant des niveaux de lumière qu'Israël n'aurait peut-être pas pu attirer tout seul. Et la leçon du Sod à ce propos, c'est que même les forces négatives, elles sont parfois forcées de servir la lumière pour le bien du Ram Israël. Amen. Et voilà, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Bezrat Hashem.